c'est une construction narrative d'une exposition qui est la première du genre en France et qui tente, j'espère qu'on a réussi, d'embrasser aussi bien l'anthropologie, les sciences, l'agronomie, la géographie, l'esthétique surtout, puisque vous avez remarqué que ce qui importe surtout là, c'est de prendre prétexte d'œuvres d'art pour parler du café. Et là, ça a été la belle surprise, c'est de découvrir que les écrivains, les plasticiens, les photographes, les designers, Jean Nouvel, bien d'autres, Sophie Calle, le Marseillais Bacquier ou Daumier, tous ces gens se sont intéressés au café. Voilà, donc il suffisait de tirer sur une ficelle pour essayer de restituer l'imaginaire du café dans une exposition de 1200 m² et avec en perspective l'idée d'avoir au-delà du Mucem pour la première fois une activité de transmission de savoir dans les bistrots, autour du Vieux-Port, avec Margot Lançon, la photographe, et de créer une université populaire du café. Voilà, et c'est ça qu'on a essayé de faire.
Alors l'imaginaire, oui, mais le botanique, et puis l'économique aussi, le botanique.
Que le café, c'est aussi de la botanique. Ce sont des herbiers, par exemple, des herbiers, et on voit cette petite cerise de café sur les caféiers, cette petite cerise qui met 9 mois à être fécondée, et qu'on récolte sous la méthode dite du picking, c'est-à-dire que doigt par doigt, on récolte ces graines de café pour en faire justement du café que l'on lave, que l'on sèche très longuement et que les photographes ici comme Reza ou comme Salgado ou même Bonnier ont réussi à restituer, c'est-à-dire un monde économique très peu connu, en fin de compte, où l'esclavage, mais aussi les ouvriers du début du XXe siècle, ont occupé l'espace. C'est-à-dire que 11 milliards d'hectares de café dans le monde, ça compte, avec des pays phares comme le Brésil, maintenant comme le Vietnam, le Laos, évidemment l'Afrique, dont on parle très peu, on ne parle que de l'Éthiopie. Mais aujourd'hui, des grands terroirs de café, on les trouve au Botswana, on les trouve dans le Malawi, on les trouve au Zimbabwe. Et là, on trouve des à 1200 mètres, puisque l'Arabica et le Robusta ne peuvent s'épanouir que sous des ombrages très particuliers, dans des humidités très spécifiques. Et là, on les trouve en Afrique, évidemment, et puis on les trouve au Mexique, au Guatemala, à Cuba aussi.
On le voit dans cette exposition, les bistrots, le nombre des bistrots chute en France.
Oui. On peut avoir deux lectures. La première, c'est une lecture un peu nostalgique, c'est-à-dire qu'en 1960, on avait à peu près 660 000 bistrots. Aujourd'hui, on en a en France, entre 59 et 62 000. Donc les chiffres varient, puisqu'on ne sait pas trop si on met dans le bistrot une petite brasserie, voilà. Mais en gros, voilà l'état des lieux. Cet état des lieux n'est que l'illustration de la désertification rurale. Mais le café y participe. Vous fermez un café, vous fermez un village. On dit l'école, oui, mais le bistrot, c'est pareil. Donc tout ça s'est transformé en des Starbucks, en des Columbus, en des installations de coffee shop à l'américaine, qui ont une autre manière de célébrer le café, par le coworking, par le wifi à l'intérieur, on y travaille des heures et des heures, on paye à l'heure, on paye plus le café, on dit on reste une heure, ça coûte tant, et on boit tant de café que l'on veut. Voilà, c'est une nouvelle pratique culturelle autour du café qui s'est nouée grâce à l'urbanité, grâce aux grandes villes, comme Seattle par exemple, Seattle, le siège de Starbucks. On y trouve tout simplement plus de 1600 Starbucks, vous imaginez un peu, c'est absolument énorme. L'agglomération est énorme et on trouve là beaucoup de coffee shops qui n'ont pas du tout l'esprit qu'avaient les petits cafés de village. Donc quand on dit qu'il y a une disparition des cafés, c'est vrai, mais c'est les cafés qui se sont transformés. Et c'est, là, on ne le voit pas vraiment, ça.
Quelle est la place de Marseille ?
Elle est importante, l'histoire de Marseille, parce que l'une des raisons pour lesquelles on a fait cette exposition, c'est tout simplement que le café en France est né à Marseille. Il est né parce que le port de Marseille importait, grâce à des personnages qui étaient des aventuriers, comme Jean de la Roque ou son père, des balles de café, on appelait ça des balles de café, 60 kilos chacune, ça c'est standard, de Constantinople, d'Istanbul, du Caire. On arrivait en bateau et on installait le café, on le revendait. Et puis à un moment donné, il y a eu les Arméniens de Marseille qui se sont dit « on va installer des bistrots, des cafés ». Et ça s'est effectivement vu comme ça. Les premiers bistrots sont nés ici à Marseille, pas à Paris. À Paris, c'est en 1677. Ici, c'est en 1641. Les premiers bistrots sont nés ici. Ça s'appelait les maisons de café. On les appelait maisons de café. Et voilà comment un Arménien du nom de Pascal a installé le premier bistrot en France, c'est à Marseille.
Le week-end d'ouverture propose énormément d'activités, d'animations. Vous pouvez nous dire les grands axes ?
J'essaye de trouver une manière de célébrer le café autrement qu'en faisant l'expo. Voilà. Bon. Donc, d'abord, Université populaire du café. Pendant 3 mois, 15 conférences dans les bistrots de Marseille, volontaires. Ils sont volontaires. Le café des Danaïdes, le café de la Banque, la Samaritaine, ceux-là se sont dit, nous, ça nous intéresse, on accueille une grande conférence. Et je peux vous dire, c'est du haut de gamme, hein, ceux qui viennent. Ils viennent le samedi après-midi à 15h. Pour lancer tout ça, j'ai proposé qu'on fasse une course de garçons de café. Il n'y en a pas eu depuis 1965 à Marseille. J'ai trouvé les images à l'INA de la course de garçons de café. Ici, on voit la Samaritaine qui existait déjà. Et on voit la course avec des facteurs, d'ailleurs, qui derrière les garçons, faisaient la course également. Donc, on a ça. Et puis, le week-end qui vient, on a cette course de garçons de café. Le soir, la projection de 2 films emblématiques. Claude Sauté, Yves Montand jouant le garçon dans ce fameux bistrot qui s'appelle Garçon. Enfin, ça s'appelle Garçon. Très beau film de Claude Sauté, 1963. Et puis, vous avez juste à 22h, samedi soir, Coffee and Cigarette de Jim Jarmusch. Pareil, emblématique d'une autre génération de consommateurs plus jeunes qui voient dans le café une aspiration à l'addiction et une aspiration à une nouvelle sociabilité beaucoup plus musicale. Mais surtout le dimanche, si vous allez à la Friche Belle de Mai, j'ai invité Pierre Gagnère à créer des recettes à base de café. À Daroussin, de lire le traité des excitants modernes d'Honoré de Balzac, lui-même addict du café. Entre nous soit dit, il en buvait 50 par jour, et il en est mort. Donc, vous voyez, donc le café fait partie de la vie de Balzac. Et donc, j'ai demandé à Philippe Geluck de dire dessiner, au-delà de ses dessins qu'il nous a consacrés, fait pour l'exposition, de venir avec son chat s'amuser autour du thème du café, parce que lui-même est un addict du café. Alors Zoé Valdez vient dès vendredi soir, ici au Mucem, lire le texte qu'elle m'a remis. Je lui ai commandé un texte, comme je l'ai commandé à Douglas Kennedy ou à Carvalho, donc des grands écrivains. Je pensais très franchement au départ qu'ils allaient me dire « Écoutez, on a autre chose à faire que d'écrire sur le café ». Pas du tout. Ça les intéresse de faire un travail sur les pratiques eux-mêmes qu'ils ont du café, parce qu'ils y passent leur vie. Yves Simon, il passe sa vie. C'est ça l'idée, c'est d'arriver à mêler de manière ludique, mais aussi littéraire, scientifique, de manière géologique même, puisqu'il y a des parties que Charrier du CIRAD nous évoque sur la manière dont l'altitude compte beaucoup sur les plantations de café. On essaie d'embrasser un tout. Si on prenait le café par un petit bout de la lorgnette, c'était foutu. On restait sur un parti pris scientifique. Effectivement, on aurait appris des choses, mais c'est insuffisant pour comprendre qu'il y a 2 milliards 600 millions de terriens qui boivent chaque jour une tasse de café. Je répète, 2 milliards 600 millions. Vous imaginez, par jour, et ça fait vivre 120 millions de personnes dans le monde.